Céder ou reprendre une entreprise, une aventure entrepreneuriale faite de rencontres entre dirigeants et experts. Je suis Éléonore Vigneron et avec les Carnets de la Transmission, je vous donne rendez-vous chaque mois pour écouter ces femmes, ces hommes qui ont franchi le cap et les professionnels qui les accompagnent. Les Carnets de la Transmission est un podcast inédit proposé par Ligi, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée, en partenariat avec Inextenso, cabinet d'expertise comptable et conseil, acteur du développement des entreprises et du dynamisme des territoires. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Carnets de la Transmission, consacré aux coulisses de la session de la start-up nantaise Kezlo Analytics au leader mondial LexisNexis. Kezlo Analytics, créé en 2017 par Jacques Lévy-Véel, est une intelligence artificielle permettant d'anticiper des décisions de justice. Une technologie unique au monde qui s'appuie sur une analyse rigoureuse de textes juridiques et des modèles probabilistes. Aujourd'hui, nous découvrirons l'histoire derrière cette transaction entre deux sociétés opposées, la jeune entreprise innovante composée de seulement 20 collaborateurs, face au grand groupe au pouvoir de décision important. Dans cet épisode, nous explorerons le processus qui a conduit à ce rapprochement unique. Pour en parler, nous accueillons Jacques Lévy-Véel et Alban Vollard, expert comptable Inextenso. Bonjour Jacques, bonjour Alban. Alors Jacques, l'histoire de Kezlo Analytics détonne puisque vous avez créé cette start-up tardivement dans votre carrière et elle est le fruit d'une longue collaboration entre vous, mathématicien de formation, et votre meilleur ami, magistrat.
Oui, effectivement, un de mes meilleurs amis, je ne veux pas avoir des ennuis avec mes autres meilleurs amis, mais un de mes meilleurs amis qui s'appelle Jérôme Dupré, qui à l'époque était juge aux affaires familiales ici à Nantes, qui aujourd'hui est juge d'instruction à Angers. Il a fait une petite parenthèse, enfin il a fait beaucoup d'autres choses dans sa carrière, mais une petite parenthèse pour venir travailler avec moi pendant 2 ans dans mon institut de recherche et fabriquer ce produit.
Et alors le sujet que vous adressez est assez complexe pour le grand public. Pourriez-vous un peu nous vulgariser votre métier pour que justement on puisse comprendre ce que vous faites?
Alors donc moi je suis mathématicien et plus précisément je suis un probabiliste et je m'intéresse aux phénomènes qu'on appelle essentiellement aléatoires, c'est-à-dire des phénomènes qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas d'aléas, s'il n'y avait pas de hasard dedans. Donc il ne s'agit pas dans les modèles que je fais de prédire ou d'éliminer ce hasard, parce que si on éliminait le hasard, eh ben, on n'y aurait plus rien à étudier. Et ça peut paraître un peu abstrait, mais un exemple simple de ça, c'est justement ce qu'on fait chez Kezlo Analytics, c'est les procédures judiciaires. Alors ce n'est pas vrai dans tous les cas, mais dans beaucoup de situations, si les gens vont au tribunal, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que le juge va décider. Si on savait que le juge allait accorder une prestation compensatoire ou donner raison au salarié qui a été licencié, ben, si on le savait à l'avance, on n'irait pas, on se réglerait ça comme ça. Donc le simple fait qu'on aille au tribunal, dans beaucoup de cas, pas toujours encore une fois, c'est parce qu'on ne sait pas ce que le juge va décider, donc il y a un aléa. Voilà, donc moi j'ai passé ma carrière à l'INRIA à étudier ce genre de phénomène et faire des modèles pour ça. Et donc avec Jérôme Dupré, donc on a décidé de faire un modèle d'intelligence artificielle pour comprendre la manière dont les juges prennent une décision en respectant cet aléa.
Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'INRIA?
Ah oui, bien sûr, oui. Donc l'INRIA, c'est un institut de recherche français qui a le même statut que le CNRS, qui est beaucoup plus petit et moins connu parce qu'on ne s'intéresse qu'aux sciences du numérique, donc essentiellement informatique, mathématiques, et c'est le centre qui est en pointe sur l'intelligence artificielle au niveau mondial. Il y a beaucoup de grands chercheurs en intelligence artificielle qui viennent de l'INRIA ou qui travaillent à l'INRIA.
Alors quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés en développant votre entreprise et en pénétrant ce marché?
Alors, il y en a eu de plusieurs sortes. D'abord, moi, j'ai fait toute ma carrière comme chercheur en mathématiques. Et donc, un chercheur en mathématiques, ce n'est pas quelqu'un qui a les compétences en principe pour fonder une boîte. Donc, pas de compétences commerciales, marketing et même de gestion des gens. Puisque même si j'ai dirigé plusieurs équipes, diriger une équipe de mathématiciens, ce n'est pas du tout pareil que de diriger une société. Donc, j'avais des challenges personnels à surmonter, des choses à apprendre. Surtout que je l'ai fait sur le tard, vraiment très tard dans ma carrière. Et puis après, il y avait des challenges techniques, évidemment, puisque modéliser le raisonnement judiciaire, ce n'est pas très facile. D'une part parce qu'on a assez peu de données, même si maintenant c'est mieux, mais quand on a commencé il y a 7 ans, il y avait assez peu de décisions disponibles, décisions de justice qui sont notre carburant. Et donc on a déjà un problème de données qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Et donc comme chacun sait, l'intelligence artificielle s'est fondée, enfin telle qu'on l'a fait aujourd'hui, s'est fondée sur la consommation d'un grand nombre de données qu'on n'avait pas. Donc on a une IA qui est un peu spécifique, d'une part parce qu'elle a peu de données, et d'autre part parce qu'on n'essaye pas de prédire quelque chose, mais de prédire ce qu'on appelle une distribution de probabilité, c'est-à-dire l'éventail de toutes les décisions possibles. Ça c'est la deuxième classe de challenge. Et puis après il y avait une troisième catégorie de challenge qui sont liées au métier. Donc les professions du droit, c'est un peu les professions les plus technophobes. Et c'est vrai que les gens qui vont faire du droit, c'est parce qu'ils aiment le droit, mais c'est aussi parfois parce qu'ils détestent les maths et la science. Voilà, donc convaincre ces gens-là qu'une IA déjà peut intervenir dans leur métier et en plus vaincre leur crainte d'être remplacés. Ça a été quand même assez long et difficile, même s'il y a des juristes éminents qui, dès le début, ont cru à ça et ont nous ont aidés à avancer, mais on a eu quand même beaucoup de résistance à vaincre sur l'intrusion que ça représentait pour eux.
Et comment avez-vous financé votre développement ?
Quand on crée une start-up et qu'on vient de l'INRIA, on est quand même vraiment très aidé. Donc là, je remercie l'INRIA et la France d'ailleurs en général. Donc une start-up ici INRIA, ça veut dire qu'on peut être incubé pendant une période assez longue. Moi, c'était à peu près 2 ans, qui nous permet de vraiment bien comprendre ce qu'on veut faire, de fabriquer. On a fabriqué nos 2 premiers produits à l'INRIA et d'avoir nos premiers clients. Donc pendant ce temps-là, mon salaire était pris en charge puisque j'étais à l'INRIA et aussi les développements par les équipes à l'INRIA. Ensuite, on a fait le parcours assez classique. Donc on a été très tôt, une des premières décisions que Jérôme a prises, c'était de faire appel à Inextenso. Et donc on a été très très bien accompagné par Inextenso pour toutes les aides qu'on peut avoir. Et c'est vrai que surtout quand on fait de la tech, c'est pas très difficile si on est bien guidé et qu'on a un bon produit de trouver des aides. Donc on a eu toutes les aides classiques, Réseau Entreprendre, Prêt d'honneur, BPI, etc. Voilà, encore une fois, avec les conseils d'Inextenso. Et donc ça, c'est ce qui nous a permis de tenir les 2 premières années. Et puis ensuite, on a fait une levée de fonds.
Et en 2023, vous avez cédé votre société au leader mondial LexisNexis. Quelles opportunités y voyez-vous alors ?
Ce n'était pas un objectif vraiment, mais quand on avait créé la société avec Jérôme Dupré, on avait un peu comme exemple 2 entreprises qui avaient été créées aux US, mais qui ressemblaient un peu à la nôtre, qui avaient été créées par des chercheurs en droit et en maths, et qui assez vite avaient été rachetées par LexisNexis. Et on avait un peu quand même ce petit rêve qu'un jour peut-être ça nous arriverait aussi. Donc c'était, quand ils nous ont approchés, on était déjà assez ouverts à ça. Et l'opportunité principale, c'était que ce qu'on fait, ça a assez bien marché en France. Mais moi, j'avais envie de m'internationaliser, puisque notre solution, elle pourrait marcher pour tous les pays. Enfin, pas tous, mais beaucoup de pays. En tout cas, beaucoup de pays européens, mais aussi les US et d'autres, et des pays en Afrique, par exemple. Et je réalisais que moi, ça allait me prendre vraiment beaucoup de temps, parce que ça ne fait pas partie de mes compétences. Et ce n'est pas non plus mes centres d'intérêt principaux d'aller développer, d'avoir de fortes actions commerciales, etc., marketing. Voilà. Et LexisNexis, voilà, justement, en tant que leader mondial, ils sont dans 180 pays. Et ils nous ont approchés en disant, voilà, on aime bien votre solution, on voudrait la mettre partout. Donc, voilà.
Et alors, quels sont les avantages que vous y voyez ? Vous avez parlé donc de leur taille, de leur structure. Est-ce qu'il y a d'autres avantages ?
Alors, donc déjà, il y a ça, c'est qu'on va avoir alors d'une part les opportunités techniques de développer pour d'autres pays, hein, puisque pour développer le produit, on a besoin de spécialistes en droit dans un domaine, dans un pays donné. Pour la partie intelligence artificielle, non, c'est la même pour tous, mais si on développe un produit pour l'Allemagne, il faut qu'on ait un spécialiste juriste allemand. Donc là, eux, ils ont ces spécialistes au sein de LexisNexis dans beaucoup de pays, donc on a accès à ça rapidement. D'un point de vue commercial, évidemment, ils ont déjà des bases de clients dans de nombreux pays. Et puis, oui, c'est pas du tout la même échelle. Et donc, les développements sont plus rapides, on a plus de moyens. Et puis aussi une reconnaissance. Voilà, c'est quand on s'est lancé Question Ethics, personne ne savait qui c'était, donc il fallait bien expliquer. Maintenant, on se présente comme Lexis, et donc il n'y a pas un seul juriste qui n'a pas entendu parler de LexisNexis. Donc, ça simplifie quand même beaucoup les choses.
Et en quoi cette acquisition a-t-elle eu un impact sur le marché de l'intelligence artificielle ?
Alors ça, c'est quand même assez standard, on va dire, puisque c'est dans tous les domaines, dans droit comme les boîtes tech elles-mêmes, hein, comme Google ou Microsoft, passent leur temps à racheter des startups qui ont été plus innovantes parce qu'elles sont plus agiles, elles ont repéré une opportunité. Voilà. Et après, du coup, ça permet que le produit soit disponible à un beaucoup plus grand nombre de gens. Donc nous, on avait quelques milliers de clients, donc ça veut dire peut-être, je sais pas, quelques pourcents du marché. Avec LexisNexis, on va multiplier par 10 ou 20, c'est ça. Et donc, ça veut dire que nos produits vont être disponibles pour beaucoup plus d'avocats ou de professionnels du droit en général. Et c'était quand même un peu l'idée de Jérôme et de moi au début, c'est que, en fait, l'IA, alors on entend tout et le contraire sur l'IA, mais pour moi, l'IA, c'est quelque chose qui permet de mettre des produits qui sont normalement réservés à une élite ou du luxe à tout le monde. Voilà, si on pense à la médecine personnalisée par IA, par exemple, au lieu qu'un petit nombre de gens puissent avoir accès aux meilleurs chirurgiens ou à meilleurs médecins, avec l'IA, on va pouvoir le faire pour tout le monde. Une bonne partie de notre clientèle, c'est les cabinets d'avocats. À l'heure actuelle, un gros cabinet qui a de gros moyens peut employer un grand nombre de stagiaires pour étudier un dossier à fond et donc fournir un meilleur service à son client. Si on est un petit cabinet d'un seul avocat, on n'a pas ces moyens-là. Grâce à l'intelligence artificielle et en particulier à Question Analytics, on revient à peu près à égalité avec ces gens-là. Voilà, donc l'opportunité, c'est ça, c'est qu'on va permettre à un beaucoup plus grand nombre de professionnels du droit de bénéficier d'outils qui leur permettent de mieux faire leur métier.
Alban, vous êtes intervenu donc sur la partie due deal de cette session, puisque vous avez accompagné en partie l'audit de Keslo Analytics. en amont donc. Quels sont les principaux éléments que vous avez examinés lors de cet audit ?
Alors, on a effectivement accompagné Kezlo dans son audit et sur trois principaux axes. Le premier, c'était toute la partie fiscalité, donc sur la partie innovation, avec les spécificités de Kezlo, avec le crédit d'impôt recherche, le statut jeune entreprise innovante, par exemple. On a également accompagné sur la partie comptabilité, sur la valorisation des actifs incorporels, puisque tout ce qui a développé en amont et breveté en amont Kezlo, ça a été aussi un des sujets de l'audit. Et puis le troisième point, c'est sur la partie sociale, où il y avait effectivement là aussi pas mal de demandes sur cette partie-là. Et donc, on a pu accompagner et renseigner l'acheteur et aussi challenger certains points.
Et alors, quels étaient les objectifs principaux de l'acquéreur lors de cette due diligence financière ? Et avez-vous rencontré des divergences d'attente entre les parties ?
Alors, au début, il y avait vraiment un sujet pour l'acheteur de la partie technologique, donc sur le socle. C'était très important pour eux. Et nous, en fait, on est intervenu sur toute la partie chiffre d'affaires où il y avait un sujet de reconnaissance du revenu, donc l'avancement sur cette partie-là. On est également intervenu sur la détermination du revenu récurrent, donc pour analyser les licences, les abonnements que Kezlo facturait au fur et à mesure. Et le troisième point, c'est sur la partie trésorerie et le calcul des BFR normatifs notamment, sur lesquels il y avait quelques sujets à étudier et à répondre pour l'acheteur.
Comment avez-vous collaboré avec les autres parties prenantes impliquées dans la transaction ?
Alors, on a eu la banque d'affaires qui était leader sur les échanges, donc qui organisait des workshops par thématique. Et donc, nous, on intervenait principalement sur les thématiques financières, avec un souhait, comme on avait échangé avec Jacques et ses conseils aussi, de diffuser une information suffisante, mais pas trop, puisqu'on était là encore sur des aspects d'audit. Donc, l'opération n'était pas réalisée de façon totale. Et puis, le dernier point, c'est qu'on fonctionnait avec des rendez-vous spécifiques, des fichiers communs sur lesquels on a échangé au fur et à mesure de l'audit.
Et quelles ont été les conclusions de cet audit ?
Alors, les conclusions de l'audit, c'est que le socle technique de leur côté était très intéressant. Donc, comme l'a expliqué Jacques, ce qu'ils venaient chercher en tant que grand groupe, c'est d'abord une nouvelle technologie, une technologie d'une structure agile comme Kezlo. Et puis, l'autre point fort pour eux qu'ils ont déterminé, c'est aussi le panel client qui avait déjà été embarqué avec des revenus récurrents importants.
Et quelles recommandations aviez-vous faites ?
Alors, sur cette partie-là, on avait échangé notamment sur le risque au niveau des encaissements de la fiscalité de l'innovation, puisque lorsque Kezlo a bénéficié d'aides, c'est des aides qui peuvent parfois être remises en cause, notamment le crédit d'impôt recherche, qui n'est pas forcément acquis dès le départ. Donc on avait un sujet sur cette partie-là. Le deuxième sujet, c'était également le maintien des personnes clés dans l'entreprise, où Jacques et ses équipes étaient très engagés sur cette partie-là.
Est-ce qu'il y avait des risques financiers ou des irrégularités importantes qui ont influencé la décision ?
Il n'y a pas eu de risque financier engagé. Après, on a toujours dans ces cas-là un sujet d'embarquement des clients, c'est-à-dire l'éventuel churn qui pourrait être engagé à la suite de cette acquisition. Mais là aussi, l'opération ayant été bien menée, je pense que les aspects ont été limités sur cette partie-là.
Comment vous et vos collaborateurs avez-vous appréhendé ces différences ?
C'est vrai que beaucoup de choses nous opposent, mais on les connaissait quand même depuis longtemps. Dès les premières conférences qu'on a faites, il y avait toujours des représentants de Lexis qui aussi venaient présenter leurs produits. Donc on se connaissait depuis longtemps. Il y avait une estime réciproque qui s'était nouée. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous ont approchés. Mais effectivement, par contre, en termes de taille, oui, c'est David et Goliath. Il y avait pas mal d'inquiétudes, c'est vrai, des équipes. Puisque nous, on était entre 15 et 20, et tous dans le même bureau. Et là, chez Lexis, 7 mois après, je connais encore pas tout le monde. Tous les jours, je reçois des emails de gens dont j'avais jamais entendu parler avant. Donc moi, j'ai essayé de rassurer les gens. Effectivement, comme vient de le dire Alban, on a eu des garanties sur le fait que tout le monde serait gardé au moins pendant les 2 premières années, avec des meilleures conditions, ou au moins aussi bonnes. Et assez vite, en fait, les équipes ça s'est bien passé. Hein. Il y a peut-être eu 2-3 mois au début, où en plus la signature a été faite début août. Donc après, comme en août, les gens étaient en vacances, ils savaient pas trop ce qui allait leur arriver à la rentrée. Mais on va dire dès début octobre, tout était assez bien calé, même si on est encore en phase de transmission des technos. Mais ils ont été quand même assez rassurants sur la manière dont ça allait se passer.
Et comment voyez-vous l'avenir de Kezlo Analytics au sein de LexisNexis ?
Alors, donc, on a quand même un plan assez précis pour les prochaines années, qui est surtout un plan. Alors, dans un premier temps, c'est intégrer nos produits dans ceux de Lexis Nexis, qui prend quand même un petit peu de temps. Et ensuite, quand même, le gros morceau, c'est l'international. Donc, on a un plan sur les quelques années qui viennent de s'implanter dans un certain nombre de pays qui sont identifiés, donc avec des produits qu'on va développer. Et puis, plus généralement, nous, on est des spécialistes d'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, ça devient de plus en plus un sujet majeur pour les juristes. Et tous les grands groupes, et en particulier Lexis Nexis, lancent des produits à base d'IA. Et donc, on va contribuer à ça, puisque nous, on a notre expertise là-dessus.
Est-ce que votre rôle a changé suite à ce rachat ?
Oui, mon rôle a énormément changé, puisque moi, j'ai un statut de prestataire externe maintenant. Donc, je ne suis pas Lexis et je ne suis pas Question Analytics non plus. Donc, c'est un grand changement. Et donc, je ne suis plus président de Question Analytics. J'interviens plus en conseil. Voilà, ce qui est une position qui me plaît beaucoup. Ça donne aussi plus de liberté. Mon rôle, là, c'est de passer les connaissances aussi bien technologiques que de gestion de Question Analytics.
Et comment vos collaborateurs ont-ils perçu cette opération ?
Une grosse partie a été embarquée au fur et à mesure de leur arrivée via des BSPCE. Donc, la boîte était aussi un peu la leur. Voilà, et donc ils avaient quand même une certaine excitation par le fait qu'ils allaient pouvoir réaliser leur BSPCE. Et puis, ça, c'est juste un symbole, mais ça veut dire qu'ils se sont quand même tous beaucoup donnés, donc c'est un succès à la fin, plutôt qu'une boîte qui meurt ou qui continue à végéter. Donc, il y a quand même une grosse adhésion. Après, il y a aussi effectivement le sentiment d'être un peu noyé dans une grande entreprise, qui est inévitable. Mais comme on continue à travailler ensemble, c'est assez réduit, cet aspect. En tout cas, tous les collaborateurs importants sont pleinement engagés, donc ils le vivent très bien. Après, il y a quand même eu quelques départs, parce que forcément, il y a des petits réajustements, mais c'est des gens qui souhaitaient partir. Et puis, nous, on travaillait beaucoup. C'est vrai qu'on était une vingtaine. On avait beaucoup de gens qui étaient soit des alternants, soit des stagiaires. Le système n'est pas le même chez Lexis. Donc, ces gens-là, qui ne sont plus là, avaient moins d'engagement dans la société, puisque c'était là pour un an. Voilà. Mais tous ceux qui étaient là depuis un petit moment sont vraiment à fond dans la nouvelle organisation.
Y a-t-il des aspects de cette expérience que vous auriez aimé aborder différemment ? Et quels enseignements en avez-vous tirés pour l'avenir de vos projets ?
Mon histoire, c'est que j'ai été fonctionnaire pendant 30 ans ou un peu plus de 30 ans et que j'ai fait toute cette aventure sans vraiment y réfléchir. Enfin, je me suis jamais dit à un moment, je vais créer une boîte ou je vais vendre ma boîte. Ça s'est fait vraiment au fil de l'eau. Et avec le recul, oui, j'ai commis énormément d'erreurs, ce qui est normal. Mais non, je crois pas que si j'ai de ça à refaire, je changerais grand chose. Voilà. Par contre, oui, ça m'a beaucoup appris pour le futur. Et donc, si je remonte une société, ce qui est probable, à horizon d'un an ou deux, oui, je saurais mieux faire. La manière dont on s'entoure, je pense que là, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, je ferai sûrement encore appel à une extenso, ça c'est clair, mais d'autres gens aussi qui m'ont beaucoup aidé. Donc, là, j'ai appris quelque chose qui me permettra d'aller un peu plus vite la prochaine fois. Et puis, oui, d'autres erreurs que je commettrai plus sur la recherche de financement, les aspects commerciaux, marketing, et les aspects personnels, voilà, qui étaient pas mes points forts. Donc dans l'ensemble, je suis quand même vraiment très très content, mais j'ai beaucoup appris et je pense que pour la prochaine startup, ça se passera encore mieux.
Merci Jacques, merci Allemand.
Merci.
À bientôt. Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute et sur les sites informateurjudiciaire.fr et inextenso.fr.